Radio de la Paix, il est 12h.
Le journal de midi.
César Yao.
Bonjour à tous et merci de suivre la Radio de la Paix. Tout de suite, les grandes lignes de cette édition de mardi midi. Première prise de contact des 33 nouveaux sénateurs nommés par le chef de l'État. Ils ont été reçus par le président du Sénat au siège de l'institution ici même à Abidjan. Jeannot Kouadio-Aoussou leur a prodigué quelques conseils d'usage. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, le docteur Albert Mabry-Twarker, c'était en séance de travail à l'université Péléforo-Gonkoulibaly de Korogo, occasion pour lui de toucher du doigt les questions relatives aux revendications du corps enseignant et d'annoncer l'ouverture prochaine des résidences universitaires. Le père de la littérature ivoirienne Bernard Benlin d'Adié sera inhumé le 12 avril prochain au cimetière de Williamsville. Et aujourd'hui, mardi, marquera l'ouverture officielle de l'hommage national au Palais de la Culture de Trècheville en présence des autorités, groupements politiques et associations culturelles. Après l'actualité internationale, vous aurez en fin de journal l'invité de la rédaction, Jean-Claude Comé, sera avec Paul sinon Kwame Philippe. Il est le directeur de la confiance numérique et de la sécurité des réseaux et systèmes d'information à l'ARTCI pour parler de la lutte contre la cybercriminalité en Côte d'Ivoire. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal de mardi 12h. Ouvrons ce journal par les échos de la cérémonie de la première prise de contact des 33 nouveaux sénateurs nommés par le chef de l'État. Les 33 sénateurs ont été reçus par le président du Sénat au siège de l'institution. Ici même à Abidjan, pour le président du Sénat, la nomination des 33 sénateurs est le choix du mérite de chacun. Voici les conseils que Jeannot Kouadio-Aoussou a donné aux nouveau sénateur.
On vous attendait. Oui, vous êtes né et je suis très heureux. Vous avez vos attributs. On va vous remettre après le code de déontologie. J'insiste là-dessus parce que j'ai dit nous devons être des modèles dans la vie de tous les jours, partout où nous trouvions. Le Sénat est un symbole de qualité, hein, des hommes de qualité, des femmes de qualité, tout doit être qualité, tout ce que nous faisons. Dans le comportement partout, dans tous les milieux, au village, même lorsqu'on se retrouve en boîte de nuit, ça doit être des comportements de sénateur. Parce que vous connaissez bien la fable de Jean de La Fontaine, le lièvre et la tortue qui marchait à pas de sénateur. Donc tous vos pas, tous vos comportements doivent être faits. Vos gestes, vos regards, vos sourires, tout doit être de sénatorial.
Voilà, tout doit être sénatorial. Voilà, c'était le président du Sénat de Côte d'Ivoire, Jeannot Kouadio-Aoussou. Celui-ci a remis des kits comprenant les appareils, les cocardes, un exemplaire de la Constitution ivoirienne et enfin un exemplaire du règlement du Sénat. À présent, la réaction de quelques sénateurs au sortir des échanges. D'abord, Alomo Kwasi-Polin et Bernard et oui, à Koutoua.
La fierté et la joie sont de courte durée, parce que le plus dur pour nous commence. Tout acte qu'on pose doit aller dans le sens de la confiance que le chef d'État nous a fait. L'objectif, c'est-à-dire suivre le bon ordre du gouvernement, aider le gouvernement à avancer pour qu'on lutte contre le chômage, pour qu'on crée le bonheur des Ivoiriens.
Avec cette nomination, nous nous sentons en mission. Nous devons donc prendre l'engagement de mériter la confiance qu'il place en nous. Vous savez, le Parlement a vocation à voter la loi, à consentir l'impôt, contrôler l'action du gouvernement et à évaluer les politiques publiques. On dit au village qu'une tête est un campement. Deux têtes, c'est un village. Aujourd'hui, notre Parlement a deux chambres. Vous savez que le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales et des Ivoiriens établis à l'étranger. Et la navette des textes va permettre un enrichissement des textes pour que sortent du Sénat des lois qui répondent aux besoins fondamentaux, aux besoins essentiels du peuple de Côte d'Ivoire.
Viviane Junon Kipré, le sentiment de responsabilité. Je prends la mesure de la responsabilité qui nous est confiée et comme toujours, je m'appliquerai à servir mon pays avec conviction, avec détermination et avec engagement. J'ai surtout une carrière de gestionnaire et je pense que je vais mettre toutes les expériences acquises au cours de mes différentes activités au service de mon pays dans le cadre du Sénat.
Voilà, c'était la réaction de quelques sénateurs ivoiriens. Et puis, signalons que le Sénat de Côte d'Ivoire compte au total 99 sénateurs, dont 19 femmes. À l'initiative de l'Organisation ouest-africaine pour la santé de la CEDEAO, les parlements des jeunes de la CEDEAO viennent de participer à un séminaire de renforcement de leur capacité sur la thématique du dividende démographique à Cotonou, c'est au Bénin. Vaïao Josué, le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire, revient ici sur l'opportunité de cette formation.
Qui parle de capture de dividendes démographiques, parle d'investissement dans l'éducation, dans l'économie, la gouvernance également. Et donc tous ces facteurs sont d'actualité et d'enjeu pour un État en vitalité de développement tel la Côte d'Ivoire.
Vous sortez de cette rencontre, qu'est-ce que les jeunes de la Côte d'Ivoire doivent pouvoir tirer comme profit?
Il faut savoir qu'à l'occasion de cette rencontre, plusieurs recommandations ont été faites à l'attention de la CEDEAO. Elle a mené les assemblées nationales des pays membres de la CEDEAO à faire la promotion du dividende démographique, a impliqué véritablement les jeunes parlementaires dans la mise en œuvre du dividende démographique. Il faut véritablement impliquer les jeunes. Une autre recommandation a été faite, c'est de pouvoir demander au ministère de la Santé des États membres d'avoir comme acteur d'exécution du projet des jeunes parlementaires. Parce que les jeunes constituent les bras valides dans un État. Et d'abord, nous allons renforcer les capacités des jeunes sur l'étendue du territoire national. Nous allons mener des campagnes de sensibilisation sur la planification familiale et aussi amener l'État de Côte d'Ivoire à créer plus de richesses, d'emplois et aussi des revenus pour permettre à ces familles-là d'être un peu plus stables.
Voilà, c'était Vaïao Josué. Il est le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire. Il était au micro de Khadi Razak Lufrid. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, le docteur Albert Mabry-Touakeur, était en séance de travail à l'université Péléforogon-Koulibaly de Korogo, occasion pour lui de toucher du doigt les questions relatives aux revendications du corps enseignant et d'annoncer l'ouverture prochaine des résidences universitaires. Nous l'écoutons.
Je demande que le travail se poursuive au niveau de Korogo, que le travail se poursuive au niveau des enseignants, qu'il n'y ait pas d'interruption de cours et que nous fassions en sorte que ce qui se fait déjà ici puisse continuer. Il n'aura aucun débat tabou, nous discuterons de tout et s'il faut vous revoir vous-même, nous le ferons. Donc je souhaite que ceux qui représentent les enseignants ici puissent porter cela à l'attention de leurs collègues, notamment des leaders syndicaux. En ce qui concerne les étudiants, ce que nous souhaitons, c'est d'offrir le meilleur. Vous devez avoir les mêmes commodités, les mêmes droits que ceux de Boaké, que ceux d'Abidjan, que ceux de Yamoussoukro. Évidemment, ça demande des moyens, bien sûr, mais ça demande du temps. C'est pour cela que vous devez aller progressivement. Vous savez, j'ai visité les bâtiments. Il y a encore des détails à régler pour ne pas que vous rentriez et que les problèmes nous rattrapent. Tout le monde n'aura pas évidemment un lit, mais nous avons l'ambition de continuer et certainement le site de l'aéroport qui n'est pas loin pourra avoir une résidence plus grande qui ne prendra pas que les étudiants de l'Institut agropastoral mais aussi les autres étudiants de l'Université Péléforogon-Koulibaly.
Voilà le ministre de l'Enseignement supérieur, la Recherche scientifique, le docteur Albert Mabry-Touakeur, était au micro de Marcel Bonny. Toujours à Korogo, la salle de conférence de la présidence de l'Université Péréforo-Gonkoulibaly de Korogo a servi de cadre pour la remise de documents aux différentes structures de la dite institution académique. Il s'agit de guides et plaquettes destinées à améliorer la qualité des enseignements qui constituent un aspect essentiel de la réforme en licence, master, doctorat. Plus de précisions dans ce compte rendu de Marcel Bonny.
La remise de ces guides et plaquettes intervient dans un contexte défini par le professeur Koulibaly Adama, président de l'université Péléforogon-Koulibaly de Korogo.
Dans le cadre du CDD, il existe un volet qui est le volet appui à la modernisation et à la réforme des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire, en abrégé AMRUJ, Côte d'Ivoire, dont l'une des dimensions concerne la conception et l'élaboration de supports.
Et quels sont ces supports?
Le guide LM2 qui est destiné aux enseignants-chercheurs et aux chercheurs afin qu'ils s'approprient ce concept LM2 et cette réforme LM2. Le deuxième type de support, ce sont les plaquettes LM2. Ces plaquettes LM2 essaient donc de donner des informations aux étudiants sur ce qu'est cette réforme.
La répartition de ces documents se fera sur la base de ces chiffres communiqué par le professeur Diomandé Draman, vice-président de l'université Pélé-Fodogon-Coulibaly de Korogo.
En ce qui concerne l'université Pélé-Fodogon-Coulibaly, nous avons réceptionné 500 guides pédagogiques LMD à l'intention des enseignants-chercheurs, des chercheurs et du personnel administratif et technique, et 10 500 plaquettes LMD à l'attention des étudiants.
Les enseignants sont donc invités à s'approprier ces manuels essentiels pour réussir la mise en œuvre du système licence master doctorat. Marcel Bonny, Korogo, Radio de la Paix.
Les communicateurs originaires du district du Zanzan veulent s'impliquer dans le développement de leur région. Ils l'ont exprimé le week-end dernier au sortir d'une assemblée générale ordinaire tenue à Grand Bassam. Et à cette occasion, ainsi que dans le cadre de sa communication, le directeur des moyens généraux du Trésor public et parrain de la cérémonie a exhorté les filles et les fils de ce district au changement des mentalités pour pouvoir embarquer dans le train de l'émergence. On écoute Nofé Michel.
Le RECOSA face aux défis du développement et de la cohésion sociale du Zanzan. Le thème en lui-même est parlant. Et le grand district du Zanzan, à savoir les régions du Gomtougo et du Boukadi, ont un réel besoin de communication. Seule la communication peut nous permettre d'aboutir au changement de comportement que nous voulons tous. Le Zanzan a longtemps souffert des incompréhensions et du manque de communication entre ses filles et ses fils. Et c'est à nous de faire du Zanzan ce que nous voulons qu'il soit. Une région de paix, une région où ses filles et fils se retrouvent pour parler, pour communier, et surtout une région où le développement permette à chacun de nous de pouvoir se faire une place. Et nous devons accompagner les plus hautes autorités de ce pays sur la voie qu'elles ont choisie. Faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Notre souhait, c'est que cette émergence ne se fasse pas sans le Zanzan. Bien au contraire, nous voulons que le Zanzan soit le porte-flambeau de cette émergence. Cela ne peut se faire que si nous sommes dans de bonnes dispositions d'esprit, que si nous changeons de mentalité et que si nous prenons la décision de devenir, comme le disent nos autorités, l'Ivoirien nouveau.
Voilà, c'était le directeur des moyens généraux du Trésor public, Nofé Michel. Dans l'actualité internationale en Algérie, jusqu'alors président du Conseil de la Nation, la Chambre haute algérienne, Abdelkader Ben Salah a été nommé président par intérim de ce pays aujourd'hui mardi conformément à la Constitution. Toujours dans l'actualité internationale au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. Rassemblés depuis 3 jours devant le quartier général de l'armée hier lundi 8 avril, ils demandent aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar El-Béchir. La position récente de l'armée semble les encourager. Un mot de culture dans ce journal. Le père de la littérature ivoirienne Bernard Benlin Dadier sera inhumé le 12 avril prochain au cimetière de Williamville. Et aujourd'hui mardi marquera l'ouverture officielle de l'hommage national au palais de la culture de Trècheville en présence des autorités, groupements politiques et associations culturelles. Hier après-midi à l'École normale supérieure, les immortels de la SCAD ont honoré l'illustre disparu à travers ce qu'ils ont appelé une cérémonie d'hommage académique. Le compte-rendu signé Blédi Diégui.
S'il est vrai que des noms attribués peuvent naturellement influencer le comportement des individus qui les portent, le cas de Bernard Dazier le démontre parfaitement. Professeur Nda Pierre du département des langues, littérature et civilisation.
Les noms sont des présages. Dazier, mon Apollo, est un couteau tranchant. Et monsieur Dazier est d'un esprit incisif et cinglant.
Bernard Dadier est certes un écrivain ivoirien, mais de par ses œuvres, il a conquis le monde et convaincu la critique. François Kouakou est membre de la SCAD et précisément du domaine des arts et cultures.
Au-delà de l'Afrique, c'est la diaspora africaine dans son ensemble qui pleure le départ d'un défenseur décidé à stigmatiser les souffrances des peuples noirs en vue de leur libération.
S'il est bon d'avoir été, il est encore mieux de sauvegarder les acquis pour la nouvelle génération, soulignait l'auteur de Clembier, repris par Nicole Vanchileoni, collaboratrice et spécialiste des œuvres de Dadier.
C'est debout, les pieds plongés dans nos valeurs, que nous pourrons affronter et défier tous les tourments, même les tourments économiques.
Je vous remercie, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Ce vers le plus connu et le plus partagé de l'auteur, extrait du recueil de poèmes La Ronde des Jours, traversera forcément tous les esprits au cours de l'hommage national au Palais de la Culture, ce mardi et demain mercredi. Le vieux guetteur, comme on l'appelle, sera inhumé le 12 avril à Williamsville.
À présent, l'invité de la rédaction lutte contre la cybercriminalité. En Côte d'Ivoire, les plaintes contre les crimes numériques ont augmenté de 58% depuis 2011, ce qui équivaut à 2860 plaintes pour un préjudice de plus de 5 milliards de francs CFA. C'est ce qui ressort du rapport de la plateforme de lutte contre la cybercriminalité mise en place par l'autorité de régulation des technologies de l'information et de la communication et la police nationale. Et pour parler du contenu de ce rapport, Jean-Claude Comet est en ligne avec Kwame Philippe. Il est le directeur de la confiance numérique et la sécurité des réseaux et systèmes d'information à l'ARTCI. Il est l'invité de la rédaction de ce jour. Monsieur Kwame Philippe, bonjour.
Bonjour, monsieur.
L'ARTCI est engagée dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité. Et dans ce cadre, avec les autorités policières, vous avez une plateforme qui récemment a fait son bilan. Que devons-nous retenir des actions menées dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité?
Effectivement, l'ARTCI, l'autorité de régulation des télécommunications, TIC, a signé une convention depuis 2011 avec la Direction générale de la police nationale de Côte d'Ivoire, qui crée la plateforme de lutte contre la cybercriminalité, en abrégé PLCC. Donc depuis 2011, on a commencé une lutte conjointe contre la cybercriminalité. Ce qu'on peut retenir, c'est que aujourd'hui, les chiffres au niveau de la cybercriminalité sont en baisse. Mais en même temps, les déclarations d'actes de cybercriminalité sont en hausse au niveau de la PLCC. Pour la simple et bonne raison que les populations ont pris confiance en la plateforme de la lutte contre la cybercriminalité et donc sont beaucoup plus aptes à aller dénoncer les actes de cybercriminalité dont elles sont victimes.
Il y a une certaine baisse en termes donc d'actes délictueux liés à l'utilisation des télécoms, mais vous avez parlé aussi d'une hausse des plaintes.
Selon les rapports, on parle d'une augmentation d'à peu près 58% par rapport à 2011. Et comme je l'ai dit en avant-propos, c'est simplement du fait qu'avant, les victimes avaient honte d'aller se présenter aux autorités. En général, une victime de cybercriminalité ou d'arnaque, très souvent, a honte d'aller dénoncer l'acte dont elle vient de subir préjudice. Mais de plus en plus, ça commence à entrer dans les mœurs des populations. Donc, on a connu un boom ces deux dernières années en termes de dénonciation et en termes également de plaintes.
À combien est évalué donc le préjudice en référence donc à ce pourcentage que vous relevez?
On a parlé de 5 milliards à peu près en termes de préjudice.
Alors, on se pose encore la question si cette action est menée, qu'il y a une certaine baisse. Pourquoi ces cybercriminels réussissent toujours à gruger les populations?
C'est la mésinformation. Non seulement il y a une question de pauvreté au niveau de la population et de mésinformation. En termes de pourcentage, selon les chiffres que nous avons dévoilés, en termes de victimes, il y a beaucoup plus d'hommes. Les femmes, on parle d'une vingtaine de pourcentage à peu près en termes de victimes. Et les jeunes sont également visés. Mais les hommes majeurs sont beaucoup plus en avant en termes de pourcentage.
Est-ce à dire, c'est parce que de plus en plus la population est exposée aux technologies de l'information et de la communication qu'on note encore des cas d'infraction par le biais de l'Internet ou de tout ce qui est télécom?
Effectivement, vous avez raison. Vous savez, la technologie a un gros avantage parce qu'elle nous permet de faire des bons extraordinaires en termes de développement. Mais également, le désavantage, c'est que la vulgarisation vient toujours avec son lot de difficultés. Tout le monde a plus ou moins accès à Internet et à un smartphone. Donc, la connexion à Internet aux différents réseaux sociaux aujourd'hui n'est plus la chasse gardée d'une certaine catégorie de la population. Tout le monde y a accès également aujourd'hui. Et c'est l'objectif d'ailleurs du gouvernement de pouvoir vulgariser les TIC. Mais malheureusement, l'utilisation de cette technologie n'est pas toujours bien faite. Ça fait que du coup, toutes ces populations qui ont accès à ces outils, magnifiques d'ailleurs, elles sont exposées également à tout genre d'arnaques.
Alors, quels sont les portraits robots de ces cybercriminels que vous avez pu identifier? Qui sont-ils généralement?
On parle des jeunes âgés en moyenne de 24 ans qui ont eu une scolarité difficile ou qui sont déscolarisés autour de la classe de 3e. Et dans ce profil-là, on a 92% qui sont des hommes. 63% de ces cybercriminels ont entre 18 et 27 ans. 37% sont des élèves et étudiants. Et 19% sont sans emploi. Voilà à peu près le profil.
Justement, quelle est la nomenclature des infractions selon cette étude?
Le top 3, on a la fraude sur le porte-monnaie électronique, ce qu'on appelle communément le transfert d'argent, le mobile money. On a également l'usurpation d'identité et finalement l'atteinte à l'image, à l'honneur. Donc les menaces, injures et harcèlement, diffamation via les réseaux sociaux.
Quel conseil donc aux utilisateurs des technologies de l'information et de la communication pour éviter des cas d'arnaque?
L'un des premiers conseils, c'est que on peut avoir une vie sur les réseaux sociaux, mais il faut savoir vivre caché. Ne jamais donner ses données sur les réseaux sociaux. Il faut toujours rester modéré, s'assurer de ne pas s'exposer via des photos un peu trop osées ou des vidéos, avoir une navigation responsable.
Kwame Philippe, merci.
Merci bien.
Et c'est la fin de cette édition de mardi midi, le rappel des dominantes. Première prise de contact des 33 nouveaux sénateurs nommés par le chef de l'État. Ils ont été reçus par le président du Sénat au siège de l'institution ici même à Abidjan. Jeannot Kouadio-Aoussou leur a prodigué quelques conseils d'usage. Le ministre de l'Enseignement supérieur de la recherche scientifique, le docteur Mabri Touaké, c'était en séance de travail à l'université Péléforo, Gonkoulibaly de Korogo, occasion pour lui de toucher du doigt la question relative aux revendications du corps enseignant et d'annoncer l'ouverture prochaine des résidences universitaires. Le père de la littérature ivoirienne Bernard Benlin Dadier sera inhumé le 12 avril prochain au cimetière de Williamville. Et aujourd'hui, mardi, marquera l'ouverture officielle de l'hommage national au Palais de la Culture de Trècheville en présence des autorités, groupements politiques et associations culturelles. Et puis, dans l'actualité internationale, au Soudan, les manifestants maintiennent la pression. Rassemblés depuis 3 jours devant le quartier général de l'armée, hier lundi, ils demandent aux militaires des négociations directes en vue de la formation d'un gouvernement de transition pour remplacer le président Omar el-Béchir. Fin de cette édition. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, le flash de 15h. Tout de suite, la revue de presse avec Souleymane Kati Ouattara. Bonjour Souleymane.
Bonjour. La saison des pluies s'annonce et avec elle s'accroît l'angoisse des populations dans certaines zones à risque dans le district d'Abidjan. Fraternité Matin se penche sur le cas récurrent de la rivière à Palmeraie et témoigne de la détresse des habitants de ce quartier. L'une de ses habitantes révèle être à sa 5e